et vous écoutez France Culture. Toujours désiré et ainsi jusqu'à la mort. Julien Green, et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui s'immergera en ce début d'année dans le premier tome du journal intégral de Julien Green, tel qu'édité en bouquin à fond, avec science et ferveur par Jean-Luc Barré, Guillaume Faux, nos invités et Alexandre de Vitry. Un journal qui nous offre de pérégriner dans les hauts lieux du mauvais genre parisien des années 30, des pissotières du Trocadéro aux bains-douches de Barbès, des fêtes privées des Noailles aux projections de Frix ou de Nosferatu. Et pas d'erreur, c'est Julien Green que l'année commence donc bien à mauvais genre. Bonsoir à toutes et à tous, et tout d'abord, sans plus tarder, excellente mauvaise année ou bonne année mauvais genre, les deux sont valables. Pendant toute cette année, nous continuerons, coûte que coûte et vaille que vaille, à vous proposer ce qui est pour nous la meilleure incarnation du mauvais genre. Et on commence en beauté, si j'ose dire, avec Jean-Luc Barré. Bonsoir.
Bonsoir.
Jean-Luc Barré, vous êtes éditeur, aujourd'hui directeur de la collection Bouquins à la Fond, vous êtes biographe, vous avez des biographes de Philippe Berthelot, des Maritains, de François Mauriac, on va en reparler. Second invité, Guillaume Faux. Bonsoir Guillaume Faux.
Bonsoir.
Vous êtes conservateur en chef à la Bibliothèque Nationale au département des manuscrits. Vous avez assumé, je dirais, le volet scientifique de l'édition de ce détonnant manuscrit. Je serai bien sûr avec Hubert Prolongeau.
Bonjour François.
Voilà, bonne année Hubert.
Et puis
bonne année à nos invités. Effectivement, commencer Hubert l'année avec le journal de Julien Green 1919-1940. C'est quand même mettre cette année qui commence sous le signe du mauvais genre le plus résolu, le plus intégral.
Et de la découverte et de la révélation et de l'ombre et des faces cachées, puisque ce journal révèle pour ceux qui aimaient Julien Green, le romancier de Monsignère, de Moïra, de Varuna, et l'auteur de ce somptueux journal démarré en 1919 et tenu jusqu'en 1998, parce que Julien Green est remarquable aussi par sa longévité, c'est découvrir, pas forcément Mr. Hyde, mais une phase très cachée de Green et une espèce d'explosion qui est à la fois humainement et littérairement passionnante.
Très bien, ben voilà un programme placé. Nous allons donc le suivre tout au long de cette émission. Bonne année, ma chère Céline.
Bonne année, François.
Combien d'années nous sommes-nous souhaités depuis les origines? Un certain nombre, j'imagine.
Oui, plus de 15 même, 15-16, je crois. 15, dans ces eaux-là.
La meilleure année possible dans mauvais genre, hors de mauvais genre, et surtout, à l'ouverture, à la lecture, à la confection de cette encyclopédie pratique des mauvais genres. Alors, avec quoi ouvrons-nous l'année?
Eh bien, 2020 je me suis dit que rien de tel qu'une histoire de fantôme pour ouvrir l'année. Alors pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de celle du fantôme de l'opéra, pas la comédie musicale, mais l'original, le roman de Gaston Leroux, qui a été écrit en 1909 et qui raconte le destin de la chanteuse Christine Daae, tiraillée entre deux amours, celui du vicomte de Chagny et celui d'Éric, le fantôme qui loge dans le palais Garnier. Un bâtiment qui a profondément inspiré Gaston Leroux, comme nous l'explique Gérard Fontaine dans son livre intitulé « Le fantôme de l'opéra, légende et mystère au Palais Garnier ».
Il y a des légendes sur d'autres phénomènes paranormaux. Il y en a une que j'aime beaucoup qui a inspiré aussi Leroux, qui est celui des voix dites fantômes. C'est-à-dire qu'en 1910, un milliardaire américain a imaginé d'enregistrer les plus grands chanteurs de l'époque et d'en faire don à l'opéra avec les appareils de reproduction appropriés et à la condition qu'on ne les ouvre que 100 ans plus tard. Alors évidemment, 100 ans plus tard, c'est extraordinaire d'écouter ces voix qui sont disparues depuis un siècle, mais en général c'était des chanteurs très confirmés, donc plutôt en fin de carrière, et je crois que le siècle est la bonne mesure. Et alors c'est très extraordinaire parce que c'est des morts vivants ces enregistrements. Et Leroux, qui a écrit son roman en 1909, c'est-à-dire très peu de temps, en réalité c'est 1908 je crois, l'histoire des enregistrements Clark, Leroux était parfaitement au courant de cette histoire et en a fait état dans le fantôme de l'opéra. Si vous vous souvenez bien, le roman commence par ça.
Toujours toi,
On laisse la voix du trouvère de Verdi exhumée en 2007 pour descendre dans les sous-sols du Palais Garnier, précisément au cinquième dessous, lieu où se situe dans le roman de Gaston Leroux la maison du fantôme, la demeure du lac. Dans la réalité, on se trouve dans une salle d'aspect assez brut, menant vers d'énormes cabestans, avec à nos pieds une échelle qui s'enfonce vers une eau turquoise peu profonde. Difficile d'y voir un lac, tout au plus un réservoir, et c'est pourtant bien ici que Leroux a installé le repère secret du fantôme. Cette maison située, écrit-il, au milieu d'un lac, abritant une salle des supplices, sa chambre avec son cercueil et une inquiétante poudrière souterraine.
C'est là, vraiment, que se trouve le cœur du mythe du fantôme de l'opéra. Pour deux raisons. La première raison, c'est, doit être cherchée chez Garnier. Garnier devait construire un opéra dans un marécage, qui était un marécage. Et il fallait naturellement que l'intérieur soit à l'abri de toute humidité. Donc il s'est inspiré d'une technologie totalement nouvelle sur mer et qu'il a innovée ici sur Terre. C'est-à-dire qu'on venait de construire et de lancer en Angleterre ce qui était à l'époque le plus grand navire du monde. C'est resté le plus grand navire du monde pendant 50 ans. Donc c'était très médiatisé. Ce navire s'appelait le Great Eastern et il a été le premier navire doté d'une double coque en fer. Le bateau a été lancé en 1858, exploité à partir de 1860 et Garnier a commencé son chantier en 61. Donc l'enchaînement est absolument logique. Donc il a eu l'idée de faire l'équivalent d'un navire à double coque sur terre et non pas en fer mais en pierre de taille et en ciment. Donc il a construit une double coque. C'est l'origine de la maison du lac, puisque la maison du lac de Gaston Leroux est construite dans cette double coque. Alors maintenant, la deuxième importance de ce lieu, le Great Eastern a eu toutes sortes de malheurs. Tout au long de sa carrière, et dès le départ même, son lancement a été très compliqué. Puis ensuite, il a eu beaucoup d'accidents. Il a acquis la réputation d'un navire maudit et hanté. Et quand on l'a démoli en 1890 à Liverpool, on a découvert, c'est une légende, mais moi je l'ai lu dans des journaux anciens, c'est une légende qui a été reprise largement par la presse de l'époque, on a découvert les squelettes de deux ouvriers qui avaient été emmurés vivants entre les deux coques. Et c'est probablement ça, Leroux était en train de faire ses débuts dans le journalisme en 1890, il l'a évidemment vu dans la presse de l'époque, et c'est probablement cette histoire qui lui a donné l'idée du fantôme dans une double coque.
En quoi, selon vous, Gérard Fontaine, le Palais Garnier est un lieu propice, je dirais, et aux rêves et à la magie? C'est pas pour rien tout de même que Gaston Leroux s'est emparé de cet endroit?
C'est un lieu qui a été construit pour abriter l'opéra. L'opéra, c'est un rêve éveillé. C'est un rêve éveillé dans toutes ses dimensions. C'est ce qui a précédé le cinéma. C'est-à-dire, c'est la reconstitution d'un récit imaginaire dans toutes ses composantes possibles, compte tenu des techniques de l'époque. Le vrai successeur aujourd'hui de l'opéra, c'est le cinéma, qui est une machine à rêve. Il n'y a pas besoin de faire un dessin.
Pour en savoir plus sur le Palais Garnier, inspiration première du fantôme de l'opéra, roman de Gaston Leroux, je vous conseille le fantôme de l'opéra, Légende et mystères au Palais Garnier, de Gérard Fontaine aux éditions du Patrimoine. Un livre richement illustré qui vous expliquera aussi le mystère de la loge numéro 5, le pourquoi du lustre qui s'est écrasé dans la salle, le secret des colonnes creuses du Palais Garnier, pour ne citer que ces quelques exemples.
Merci Céline pour cette entrée spectrale et fantomatique de notre encyclopédie pratique des mauvais genres. Jean-Luc Barré, Guillaume Faux, abondance de soirées à l'opéra pour Julien Green. Il y est assez souvent, il fait les commentaires pointus, détaillés sur les chanteuses, sur les chanteurs. Il est même plus que mélomane, presque connaisseur.
Guillaume Faux.
Oui, cette mélomanie de Julien Green, on la connaissait à travers le journal publié. Là, elle est éclairée un petit peu différemment, peut-être précisée par la part d'inédit que nous apportons. D'abord parce que Julien Green s'y montre sensible à l'aspect visuel de l'opéra et pas uniquement musical. Aux éléments, on dirait aujourd'hui, de la production. Donc il décrit les mises en scène, les décors, les costumes. L'opéra pour lui, à cette époque-là, c'est aussi une forme de mondanité. Il décrit la composition des salles, des loges, les personnes qu'il y retrouve ou qu'il y croise. J'ai le souvenir de passage où il relate ses soirées à l'opéra avec Jean Cocteau et sa mère, accompagnée de la mère de Jean Cocteau. Et puis il y a l'opéra, mais il y a aussi le goût de Julien Green pour le ballet et les danseurs. Et là, à travers les portraits ou les descriptions qu'il fait de danseurs...
Serge Liffard fait plus qu'une apparition au journal.
Oui, c'est ça. Là, on rejoint vraiment la forme du désir de Julien Green aussi à travers cet attrait pour la danse et pour les danseurs.
Très bien, ben justement, l'opéra, entre autres spectacles et entre autres sociabilités, on va les retrouver dans ce qui est aujourd'hui le sujet de Mauvais Genre, le journal intégral de Julien Green, enfin découvert grâce à Bouquin Lafond. Et on ouvre cette parade avec Stravinsky, le scherzo à la russe. À la russe de Igor Stravinsky, dirigé par Michael Tilson Thomas, un des compositeurs qui traverse parmi tant d'autres ce journal de Julien Green, Henri Sauguet, Francis Poulenc et autres, là, le groupe des sept, Guillaume Faux. C'est vrai qu'il y a tout un versant musical. Alors, Jean-Luc Barret, les journaux, il y en avait déjà en bouquin. Il y a la très belle édition du journal de Blois par Pierre Glaude, il y a eu le journal de Jules Renard, il y a les trois tomes des journaux des Goncourt. Mais là, avec Green, c'est plus qu'une édition, c'est une réinvention. Invention véritablement, puisque le texte, on ne l'avait jamais lu comme ça.
Alors, je dirais qu'il y a le livre a été précédé, cette parution a été précédée de celle de Mathieu Gallet, qui également participait du même esprit finalement qui a présidé à la publication du journal de Green, c'est-à-dire l'idée de reconstituer l'intégralité d'un journal qui a été amputé pour des raisons diverses. Gallet, c'était pour des raisons de censure familiale et éditoriale. Green, c'est autre chose. Green avait décidé de ne pas publier de son vivant cette intégrale. Pour autant, il ne l'avait pas fait disparaître. Donc, évidemment, elle avait peut-être vocation à apparaître un jour. C'était un espèce de serpent de mer, finalement, de l'édition française. On en parlait depuis longtemps. Moi, je savais très bien que ce journal existait. Alors, on ne savait pas s'il était dans un coffre en Suisse ou ailleurs, dans une université américaine. Enfin, il y avait des rumeurs qui circulaient. Mais, bon... Il y a un hasard finalement, j'étais très disposé à le publier évidemment, donc il y avait presque une prédisposition à le faire. Encore fallait-il rencontrer la bonne personne à un moment donné. Vous savez, notre principal problème dans l'édition et notamment dans cette collection, c'est d'avoir affaire à des héritiers, des exécuteurs testamentaires très, très ouverts à l'idée qu'on publie sans phare, sans frein, sans la moindre censure des textes. C'est pas si fréquent. Et je pense que pendant les 20 années qui ont suivi la mort de Green, ça aurait été impossible. Parce que l'héritier ne le souhaitait pas. Il était un petit peu à l'affût de la moindre chose qu'il ne contrôlait pas. Et puis un jour, ça c'est pour la petite histoire, mais qui dit beaucoup de choses. Un jour, j'ai reçu une lettre du nouvel exécuteur testamentaire, qui s'appelle Tristan de Lafont, et qui m'a proposé de rééditer le journal de Green. Dans son idée, c'était de rééditer le journal tel qu'il était, déjà paru ailleurs. Bon, et donc je lui ai dit, écoutez, non, ce qui m'intéresse, c'est l'intégralité. Et spontanément, il m'a dit oui. Il m'a dit oui. J'ai dit, je veux tout, sinon je ne le publie pas. Voilà, c'est un peu comme ça que les choses sont faites. Et je suis tombé sur quelqu'un qui, effectivement, était très disposé, très intelligemment, qui a compris d'abord le fait que l'œuvre de Green aujourd'hui était en perte de... Il y avait de moins en moins de lecteurs, que c'est une œuvre qui... Au fond, comme souvent l'histoire
des... Monterland ou Mauriac, il y a un...
Non, mais c'est le problème des écrivains catholiques.
C'est face, bien sûr.
Bon, on en parlera sans doute, mais...
Bien sûr.
C'est le cas pour Mauriac aussi, dont je pense que le fait d'avoir publié la biographie que j'ai publiée à un moment donné lui a peut-être rendu un peu plus de vérité.
Certes.
Et l'a rendu peut-être plus proche des lecteurs d'aujourd'hui. Et même chose pour Greene, qui était engoncé dans cette espèce de réputation d'écrivain catholique, alors même qu'il était peut-être plus que cela, et peut-être même autre chose que cela. Voilà, donc le projet est né comme cela, et spontanément, évidemment, nous nous sommes lancés dans cette aventure, grâce à Guillaume, et grâce à Tristan, et grâce à Alexandre, qui ont effectivement fait un travail inouï sur de reconstitution de ce manuscrit. Mais enfin, je pense qu'on a beaucoup contribué, on aura contribué, je pense, à rendre à Greene sa véritable dimension littéraire.
Alors, prolongeons.
Alors, parce que là, on tourne un peu autour du pot, donc ce que rapporte ce journal, 60% de textes en plus, ce sont quand même essentiellement des confessions érotiques, pour ne pas dire des histoires de cul. Vous, quand vous l'avez découvert, qu'est-ce que vous a fait ? Est-ce que c'est une image de Greene que vous attendiez à trouver, avec cette crudité, avec cette répétition, avec cette érotomanie ? Parce que, sincèrement, il n'arrête pas. Tout le journal raconte les pissotières, les bains, les rencontres de hasard, les prostituées, C'est un érotomane en pleine activité. Est-ce que ça vous a stupéfait ou...
Non, d'abord, premièrement, ça ne m'a pas choqué. Et ensuite, ça m'a
choqué
pas...
par rapport à l'image littéraire.
Non, bien sûr que ça m'a surpris. Pas moralement. Je ne peux pas dire que je m'y attendais du tout. Je pensais qu'effectivement, s'il avait décidé de ne pas le publier, c'est que cela cachait beaucoup de choses, notamment d'ordre érotique, d'ordre... En même temps, Greene avait beaucoup brouillé les pistes, un peu comme Mauriac, d'ailleurs. Greene était allé jusqu'à même dire qu'il n'avait pas eu de relation... Il avait des relations chastes avec Robert de Saint-Jean, son compagnon.
Omniprésent.
Moins qu'on puisse dire,
on va voir comment. Dans
donc, au fond, le vrai mystère, c'est pourquoi ces écrivains à ce moment-là, si tardivement, ont cru bon de s'enfermer dans une image très prudente, très académique. Alors, sans doute en raison de leur foi et peut-être la manière dont ça serait reçu. Vous savez, c'est quand même très frappant de voir. Je le mesure aujourd'hui quand je vois la réception de cet ouvrage par certaines revues, certains magazines catholiques, qui s'étonnent même qu'on puisse aujourd'hui publier ce journal.
C'est-à-dire que du vivant. La Croix, le Figaro.
Il y a eu le Figaro, il y a eu la Vie, bon. Et tout ça sur la plume de critiques tout à fait éminents. Mais enfin, s'étonner de cela, ça veut dire qu'on refuserait a priori qu'un écrivain puisse nous livrer sa vérité. Bon. Imaginez du vivant de Greene ce que ça aurait voulu dire. Donc je pense qu'au fond, il a préféré garder cette espèce de liberté d'écrire sans publier. Bon, voilà. Mais j'ai été évidemment très surpris. En même temps, il y avait quelque chose de très sensuel chez Greene. Donc on pouvait l'imaginer, peut-être pas à ce point-là.
On va voir à quel point. 1919-1940, telles sont les dates qui servent de alpha et l'oméga de ce premier volume. Guillaume Faux, qu'est Greene à ce moment-là, entre 1919 et 1940, ce jeune Américain du Sud qui choisit le français et qui commence à publier en France. Est-ce qu'on peut résumer rapidement ces années-là ?
Alors, Julien Greene est d'abord un tout jeune homme, puisqu'il naît en 1900.
Donc, il vit dans le siècle, 1900-1998.
Oui. Il naît à Paris, de parents américains, mais il va choisir de faire son œuvre littéraire en français et pas en anglais, ce qui est déjà quelque chose de tout à fait particulier et de très intéressant. Il traverse à l'adolescence une expérience, une crise mystique, puisqu'il va se convertir au catholicisme dans une sorte de secret, puisqu'il apprendra quelques mois après cette conversion que son père, son propre père, a fait la même chose sans lui en parler. Il découvre après coup, si je puis dire, qu'ils se sont tous les deux convertis, ce qui est quand même assez particulier comme configuration familiale et puis spirituelle ou religieuse. Alors de 1919 à 1940, Julien Greene est un jeune homme, puis un homme jeune, donc dans la force de l'âge, il a beaucoup de désirs, il est très beau. Il va progressivement devenir un auteur publié, de plus en plus connu, pour qui les choses marchent bien.
Publié chez Plon.
Voilà. Je crois que cette donne-là explique aussi beaucoup du caractère très présent. Vous parliez d'érotomanie. C'est aussi tout simplement la vie sexuelle d'un homme jeune qui a du succès, qui est séduisant, qui aime séduire. Revenir sur ce qu'on disait juste à l'instant, il y a le choc, la découverte, la surprise que représentent ces inédits à caractère sexuel très, très majoritairement. Néanmoins, On savait que Julien Green était homosexuel, on savait qu'il avait ce goût des beaux corps et des beaux garçons ou des beaux hommes. Il le racontait dans l'autobiographie. Il y a des pages très explicites sur ce qui se passait au Trocadéro, son quartier qu'il habitait à ce moment-là. Il a habité le 16e arrondissement à Paris. Là, ce qui est tout à fait particulier, tout à fait original et exceptionnel, je pense, dans ce journal, c'est que c'est un journal, c'est-à-dire le relevé quotidien, systématique, sans phare, sans prétention à faire du style ou de la littérature. Et néanmoins, à l'arrivée, je crois que c'est un travail sur la langue et que c'est de la, littérature. Julien Green est un écrivain dans l'âme et il est écrivain tout le temps. Lorsqu'il fait de la fiction, lorsqu'il n'en fait pas, lorsqu'il parle de sexe ou lorsqu'il n'en parle pas. Mais disons que de 1919 à 1940, il est vraiment au moment de la pleine activité de ses désirs et de sa sexualité. Et peut-être que ça changera après, ce que la suite du journal nous dira. Et puis surtout, il y a une évolution spirituelle
qui va se marquer. Oui, rappelons quand même à nos auditeurs que le premier livre publié sous le pseudonyme de Théophile Delaporte de Julien Green, c'était Pamphlet contre les catholiques de France. Donc c'était véritablement une tonalité qui n'est pas vraiment celle du journal, même si justement, les rapports entre homosexualité et catholicisme dans l'entre-deux-guerres sont extrêmement intenses et nous allons en parler. Néanmoins, l'œuvre publiée, les premiers romans publiés de Julien Green n'ont pas du tout cette tonalité érotique, que ce soit Monsinère, Léviathan, Adrienne Mesura. On est dans un autre drame, c'est plus les références à ses drames familiaux, à cette espèce de famille du Sud, dont il parle d'ailleurs dans le journal, qui est une famille hantée, avec beaucoup de fous et de grands malades, de grands visionnaires. Donc ça, c'est plutôt l'œuvre romanesque, le journal, lui, justement, prenant en charge la vie du corps, la sexualité et l'érotisme. On va l'écouter, Julien Green, évoquer justement la différence qu'il peut y avoir entre eh bien, le travail du diariste, celui qui tient son journal au quotidien, et celui du romancier.
Dans mon cas, le romancier a une vie tout à fait indépendante de celle de celui qui tient le journal, et le sens de cette vie lui échappe jusqu'à ce que l'œuvre soit faite. Il faudrait savoir pourquoi. Je ne sais pas très bien. Je n'ai jamais vu très clair dans ce problème. Je crois que il y a beaucoup de choses dans mes romans qui ont été écrites comme à l'insu de l'auteur du journal. Ça paraît compliqué ce que je dis là, mais il y a une certaine dualité dont je me rends compte et dont les critiques m'ont aidé à me rendre compte. Et en particulier, tous les amateurs de psychanalyse et même de vrais psychanalystes ont attiré mon attention sur le fait que dans mes romans, il y a quelque chose qui ne se trouve pas dans le journal. Appelons ça l'inconscient, je ne sais quel nom lui donner, mais il est certain que la différence est très grande. Par ailleurs, le journal ne m'a jamais fourni d'éléments que j'ai pu utiliser dans mes romans, sauf cependant pour l'autre. Dans l'autre, j'ai utilisé une histoire que j'avais notée dans mon journal, qui s'était passée à Copenhague. Mais en général, les deux œuvres sont pour ainsi dire parallèles. Et il y a seulement au moment de l'autre que le romancier et l'auteur du journal se rejoignent. Mais autrement, ça ne se produit presque jamais.
Julien Green, un document INAR retrouvé par Claire Poissignon, Jean-Luc Barré.
Je ne crois pas à l'idée que le journal et le roman soient aussi distincts. Je crois qu'il est encore un moment de sa vie, mais je l'ai vu pour Mauriac, c'est évident qu'on peut relire l'œuvre de Mauriac, l'œuvre romanesque, à la lumière désormais de la vérité de sa vie. Mais, et je pense que c'est vrai aussi, je n'ai pas relu naturellement l'œuvre de Green, l'œuvre romanesque de Green, mais il m'étonnerait fort qu'on ne puisse pas comprendre qu'il n'y ait pas des clés ici et là qui soient apportées par le journal. Je ne crois pas qu'on puisse à ce point-là dissocier ces deux formes de création. Mais c'est vrai qu'il est encore à un moment de sa vie où le journal qu'il publie ne peut pas permettre d'éclairer l'œuvre romanesque. Donc je pense qu'il y a une espèce de bouleversement qui me paraît normal, qui me paraît logique dans la manière dont on lira désormais Julien Green. En tout cas, qu'on ne le lira plus de la manière dont on le lisait. Ça c'est clair, parce que c'est quand même une œuvre très codée, très mystérieuse, qui ne livre pas tous ses secrets. Et je ne crois pas c'est presque une banalité de le dire, qu'un romancier puisse être compris en dehors de sa sensibilité profonde.
Guillaume Faux.
D'autres temps qu'il y a dans ces passages inédits du journal intégral, plusieurs occasions pendant lesquelles Julien Green finalement regrette de ne pas pouvoir, dans ses romans, c'est-à-dire dans une forme publiée, socialement recevable, acceptable, exprimer tout de la vie d'un personnage, et y compris sa sexualité. Et le journal, peut-être, qui représente pour lui un élément de liberté absolue. Lorsqu'il écrit ce journal à son bureau le soir, il ne rend de compte à personne. Et donc, il compense peut-être dans le journal ce que certains aspects de l'œuvre romanesque n'ont pas pu exprimer.
Oui, c'est marrant, j'allais vous poser la question justement, parce qu'il y a une phrase dans le journal qui est assez curieuse, enfin qui tente à montrer qu'il aurait aimé peut-être être plus libre de dire. En 1933, il est rendu furieux par la lecture à la fois d'un article de Monterland et d'un article de Paul Morand, qui tous les deux semblent être assez hypocrites sur ce qu'ils dépeignent. Et il dit « Je me bornerai à écrire une nouvelle dans laquelle un homme couche avec un jeune garçon de manière à me compromettre une bonne fois ». C'est très fort ça comme terme, se compromettre. Quels étaient les dangers que pouvait à cette époque courir un Julien Green à laisser montrer cette vigueur érotique homosexuelle, et dans quel entre-deux vivait-il? Parce qu'on a l'impression, en lisant le journal, qui est également un document passionnant sur la vie des homosexuels dans les années 30, qu'ils sont à la fois extrêmement libres, on compte plus le nombre de partenaires qu'il a, la facilité qu'il a priori à les trouver, on a l'impression qu'à peine il sort dans un café, immédiatement, les proies tombent quasiment toutes seules. Et en même temps, l'obligation de se limiter tout le temps. Quand il est en voyage dans sa famille aux États-Unis, il voit passer des hommes qui lui font envie, il regrette que ça ne puisse pas aller plus loin, et il a cette phrase, il dit « tout cela m'est interdit ici ». Donc quelle était la réelle liberté, ou non, des homosexuels de l'époque?
Je crois franchement qu'elle était quasiment inexistante, c'est-à-dire qu'il fallait avoir le courage d'un Jean Cocteau, mais qui ne se définissait pas comme un écrivain catholique, loin de là, pour affirmer, et Dieu sait s'il l'a payé cher, sa liberté d'homosexuel, de créateur homosexuel. Pour le reste, pratiquement tous les écrivains catholiques importants de l'époque se sont planqués, si je puis dire, au nom d'une censure, d'une morale, parce qu'ils étaient très attaqués, parce qu'ils étaient mis en cause, et que la morale sexuelle que nous subissons encore, hélas, au sein de ce qui reste de l'Église catholique, fait que ils avaient cette espèce de... C'était la limite de l'éducation, la limite de la famille, la limite du milieu, la limite de la presse, qui faisait que s'ils voulaient exister, s'ils voulaient que leur œuvre soit comprise, soit reçue, et s'ils voulaient faire carrière d'une certaine manière, ils étaient tenus à une sorte d'autocensure. C'est le poids de l'époque, c'est le poids d'un certain catholicisme moralisateur. Alors peut-être qu'ils se sont conditionnés, peut-être qu'ils ont manqué de courage, au passage, on ne peut pas dire ça de Mauriac. Mais sur cette question sexuelle, c'est vraiment... Et ils échangent entre eux, c'est ce qui m'a beaucoup frappé dans le journal de Green, c'est qu'il est très cruel, au fond, pour François Mauriac. Si François Mauriac le renvoyait...
Si vous connaissez quelqu'un qui n'est pas cruel pour François Mauriac, il faut me le signaler.
Mauriac était assez cruel avec les autres.
L'écrivain qui a été...
Non, mais je veux dire, par là, c'est très cruel. Ils étaient très liés.
Oui, absolument.
Et j'ai découvert à quel point il était très insidieux. Il regardait Mauriac presque comme son double, le double auquel il ne veut pas ressembler, d'une certaine manière, qui lui-même... Et il y a une forme d'hypocrisie chez Mauriac. Et il y a une forme d'hypocrisie aussi chez Green, incontestablement, par rapport à cela. Mais qui n'est pas critiquable en soi. Je veux dire, par là, que je crois que c'est presque une mesure de sauvegarde qui est lié à l'époque et qui fait que ces écrivains se sont beaucoup contraints. Alors, il y a l'idée chez Mauriac, au fond, on domine son œuvre si on domine sa vie, mais jusqu'à quel point, d'une certaine manière?
Il y a un élément, je pense, qui permettait à Julien Green de contourner le poids de la morale sociale, sexuelle, de l'état de la société, c'était le voyage. Ce journal fait état des très réguliers, très nombreux, très fréquents voyages. Il a la bougeotte, hein. Dans ces années-là, il passe son temps à voyager, la plupart du temps avec Robert de Saint-Jean. Et ces voyages sont pour lui, je pense, l'occasion de déplacer un petit peu le problème. C'est-à-dire qu'il arrive à trouver des villes, parfois des pays, et de ce point de vue-là, l'Allemagne et l'Autriche sont des cas intéressants, des pays où les choses arrivent à se acter de façon plus simple, sans doute. Et vous le disiez à l'instant, Jean-Luc, cela pose aussi toute la question des réseaux de sociabilité des homosexuels qui s'écrivent, échangent, se donnent des informations sur les lieux,
on va en parler,
fois, les villes.
En seconde partie, ce qui est aussi marquant dans ce journal, Jean-Luc Barré, c'est que souvent, bon, on a un écrivain qui a une œuvre officielle et puis on met à jour à côté des curiosas ou une correspondance érotique. Là, ça vient de l'intérieur du texte, c'est-à-dire que c'est pas un texte à côté d'un autre, c'est véritablement le texte se redimensionne complètement.
Oui, c'est ça. Mais en même temps, il n'est pas publié au même moment. Donc, effectivement, il y a une sorte de double jeu, si je puis dire, entre ce qui est publié et une vérité beaucoup plus clandestine. Bon, mais le grand mérite de Green, c'est de ne pas l'avoir déchiré, de ne pas l'avoir brûlé, ce journal. Il est là, il est resté. Incontestablement, il voulait que ça paraisse un jour ou l'autre. Donc, ça paraît maintenant, et je pense qu'on a enfin l'intégralité de cette œuvre-là. Mais ce double jeu, encore une fois, est lié à ce qui a été aussi le contexte d'une époque et sans doute la morale qui était celle de Green. Bon, voilà.
Première émission 2020 pour Mauvais Genre sur France Culture. Nos invités ce soir sont Jean-Luc Barret, directeur des éditions Bouquins à la Fond, et Guillaume Faux, co-éditeur du journal intégral de Julien Green en Bouquins à la Fond. Donc l'événement Mauvais Genre, on peut le dire, de cette fin d'année 2019, mais que nous devions évoquer à Mauvais Genre. Alors, on parle de Julien Green, mais il faut évidemment évoquer Robert de Saint-Jean, qui est plus que son ami, plus que son amant, qui est véritablement son idole, qui est la condition même de sa vie sur Terre, on a l'impression. Une espèce de sentiment que ce personnage, eh bien, remplit totalement les désirs de Green, à la fois au ciel et sur la Terre, puisque la vision qu'il en donne est à la fois totalement charnelle, totalement incarnée, érotique, pornographique, et en même temps, on a le sentiment que c'est un ange. Donc, le personnage de Robert de Saint-Jean a une sorte de double dimension. On va écouter un extrait, donc, très court, d'une évocation de Robert dans le journal de Julien Green. L'autre soir, fait l'amour avec Robert. Je lui ai sucé le trou du cul. C'est la forme de plaisir que je préfère. Pourquoi ? Je ne peux le dire. Est-ce parce qu'elle est la plus indécente que les autres ? Je ne le crois pas. Mais le trou du cul, qui est au centre même de l'être, en est la partie la plus secrète. Et qui le suce, peut se flatter vraiment de posséder cet être. Du reste, ses raisons d'ordre cérébral sont sans doute fausses. J'aime ça. Parce que j'aime ça. À 4 heures au petit salon. Robert rentre à l'instant. «
Voilà un extrait choisi du journal intégral de Julien Green. Là, on a véritablement, je dirais, Jean-Luc Barret, la vision la plus, évidemment, on peut dire la plus crue, la plus pornographique, mais je dirais la plus sincère et la plus authentique de Green, c'est-à-dire la vérité simple du fait charnel et du fait érotique. Voilà, c'est comme ça, parce que c'est comme ça.
En cela, il est très très moderne. Enfin, c'est-à-dire qu'on se rend compte à quel point cet écrivain s'est contraint véritablement. Toute son œuvre, heureusement, n'est pas que cela. Mais on est là dans quelque chose d'extrêmement direct, inattendu. Ça jalonne d'ailleurs tout le journal. Toutes les scènes de baise, je vais parler comme lui, de baise, de rencontres érotiques, à deux, à trois, à quatre, sont décrites avec une espèce de précision. Bon, je ne trouve pas absolument pas choquante, qui est très littéraire au fond, mais qui fait de lui un grand écrivain érotique. Mmh. D'une certaine manière, c'est très inattendu, évidemment, par rapport à ce que... C'est aussi cru que pouvait l'être l'œuvre de Renaud Camus, première manière.
Enfin, je veux dire, de Trix.
Voilà, des grands écrivains érotiques. Ce qui, sans doute, d'ailleurs, qui n'a rien d'étonnant, peut-être venant d'un écrivain catholique, au fond. C'est-à-dire qu'un homme qui se contraint et qui donc enferme en lui-même des désirs qu'il exprime plus ou moins, qu'il réalise plus ou moins, et quand il les réalise, ça prend peut-être d'autant plus de vérité.
Et qu'il semble regretter par moments. Il y a deux, trois phrases assez émouvantes et assez troublantes. Par exemple, il dit de Robert de Saint-Jean, « Il a des désirs qui se laissent dominer, alors que moi, hélas, trois petits points. » Comme s'il était emporté par quelque chose dont, dans le fond, il ne voulait pas tout à fait. Ça vous semble juste?
Oui, mais ça, c'est le remords, c'est le problème souvent des écrivains catholiques qui pêchent, comme on emploie plus ce mot aujourd'hui, heureusement. Enfin, le péché était étroitement lié au remords.
Et c'est ce qui en faisait la saveur aussi.
Voilà, puis on va se confesser, puis on veut... Donc il y a une forme de liberté, en même temps, de regret que cette liberté... Mais en même temps, on ne peut pas dire qu'il soit, finalement, qu'il se restreigne beaucoup. Il est très libre, au fond.
Écrivain catholique, certes, converti au catholicisme, futur biographe, bien, dans ses dernières années de Saint-François d'Assise, mais quand même, ce qui apparaît le plus dans ce volume, c'est moins le catholicisme avec son cortège de péchés, d'ascèses, que véritablement une sorte de fascination presque grecque pour la beauté du corps masculin.
C'est pas tout à fait incompatible.
C'est pas incompatible,
ça
mais
me paraît pas incompatible.
Il y a assez peu.
Regardez
de présents.
Les peintures de Saint-Sébastien. Ouais. Enfin, les églises sont pleines de même certaines peintures du Christ, quand même très très érotiques. François Mauriac d'ailleurs était très sensible.
Saint-Sébastien est une
image de Jésus, non, mais à l'image de Jésus, une image physique de Jésus. Donc tout ça me paraît pas. Le problème, c'est que il y a dans la religion catholique une sorte d'interdit qui fait. Il y a encore malheureusement par certains côtés une sorte d'interdit qui consiste à ne pas vouloir ne pas oser aimer la beauté masculine jusqu'à ce qu'elle peut signifier d'adoration et d'amour et de sexualité. C'est ça la question. Mais ça n'est pas incompatible. Il n'y a jamais eu de dogme ou de précepte qui interdisait d'aimer la beauté masculine ou la beauté féminine d'ailleurs.
Et Guillaume Faux, on découvre, alors là c'est tout l'intérêt historique, l'histoire culturelle, l'histoire sexuelle européenne, dans ce livre, véritablement la gay society parisienne, française et internationale, avec tout un réseau de grands amoureux et de grands amateurs, qu'ils soient anglais, américains, autrichiens, allemands surtout, avec des lieux, avec des figures de prostituées qui circulent de l'un à l'autre. Ce qui apparaît, et qui à ma connaissance apparaît rarement d'une forme aussi dense et aussi nourrie, c'est véritablement tout un monde. Il y a tout un monde amoureux qui apparaît là.
C'est ça, c'est le mot est très juste, c'est tout un monde qui est là, qui apparaît, qui est rendu d'une certaine manière intemporel par ce journal. Enfin, on est avec Julien Green à peu près 24 heures sur 24 avec ce journal. C'est à la fois la diversité des lieux, des occasions de rencontres, que ce soit dans des lieux à peu près spécialisés comme les bains, par exemple, des lieux moins spécialisés mais qui sont détournés, dont l'usage est détourné, comme les pissotières qui n'existent plus à Paris.
On a consacré une émission vespasienne à mauvais genre, extrêmement nourrie de témoignages sur cette question.
Mais aussi des lieux publics comme les transports en commun. Par exemple, il y a des scènes de séduction ou de drague dans les autobus parisiens. Ce qui est très frappant aussi, c'est le caractère très divers des classes sociales qui sont représentées. C'est-à-dire que Julien Green côtoie, couche ou ne couche pas, mais côtoie des ouvriers jusqu'aux grands aristocrates.
C'est vraiment la société sans classe. Là, il y a véritablement une sorte d'utopie politique homosexuelle qui fait que le rapport érotique homosexuel explose complètement les limites sociales.
Il y a aussi la diversité des pratiques sexuelles et des goûts, ce qui est encore une autre question individuelle en matière de sexualité. Il y a la question de la prostitution qui est tout à fait clairement abordée par Julien Green. D'abord parce qu'il il pratique la sexualité tarifée à certaines occasions et on a les détails des sommes qu'il paye à ces prostituées et encore bien d'autres aspects de l'homosexualité.
Tel que la pédophilie, qui est un sujet aujourd'hui extrêmement stigmatisé, extrêmement, et qui à l'époque bénéficiait d'une complaisance beaucoup plus grande, puisque si Green lui-même déclare ne pas être attiré par les jeunes garçons, son ami Klaus Mann, quand il lui rend visite, lui raconte lui ses exploits avec des enfants beaucoup plus jeunes et sans du tout le choquer. Il dit juste cette phrase quand Klaus Mann dit qu'il aime les garçons entre 10 et 40 ans. 40 ans, c'est plus de la pédophilie, mais à partir de d'ici. Et il dit « je commencerai plus tard et finirai plus tôt ». Mais il n'y a pas d'opprobre moral ni de rejet de la pédophilie en tant que telle. Les mentalités ont énormément évolué là aussi.
Alors, la pédophilie dans le journal intégral de Julien Green, ça n'est pas la pédophilie de Julien Green, effectivement, vous l'avez dit, ça ne fait pas partie de ses pratiques à lui, c'est plutôt donc effectivement la pédophilie des autres qu'il constate, qu'il relate ou qu'on lui confie. Alors, il faut être très prudent dans les idées qu'on émet sur cette question-là parce qu'on le fait à partir de notre point de vue aujourd'hui, hors d'état de changements sont intervenu à la fois dans la perception de ces questions-là, dans la question des âges des garçons ou des jeunes hommes en question. Il y a une scène très frappante que je n'arrive plus à situer dans la chronologie, mais qu'on pourrait retrouver dans ce journal. Ça se passe à Berlin et je crois que Julien Green raconte qu'il se promène dans la rue et il suit une mère et son fils, un tout jeune garçon, un garçonnet ou un
mais
tout
ça,
jeune.
Je crois que c'est quelque chose qu'on lui a raconté.
Qu'on lui raconte. Est-ce que c'est Klaus Mann ou Gide? Je ne sais plus. Mais, le petit garçon remarque qu'on l'observe et qu'il attire l'attention de ce passant, dit quelque chose, murmure quelque chose à l'oreille de sa mère, va voir le monsieur qui le suit et lui dit, mais maman est d'accord.
Faut-il que j'aie attendu d'avoir 30 ans pour découvrir que je suis un érotomane? C'est la conclusion à laquelle j'arrive aujourd'hui. Et pourquoi suis-je un érotomane? Par privation. C'est toujours la même histoire. Aujourd'hui, j'ai croisé place du Trocadéro un jeune homme de 18 ou 19 ans, vêtu d'un manteau de cuir noir. Il était blond, comme du miel très pâle et presque solide. Ses cheveux étaient bouclés et ondés. Il avait un profil court, un nez relevé, une lèvre ourlée et la ligne de la mâchoire presque en arc de cercle. L'œil était bleu et le teint admirable, quoique pâle. Des lois, des conventions criminelles ont fait que je n'ai pu au moins lui faire part du désir violent qu'il existait en moi. Et j'ai souffert. Un peu plus tard, un jeune officier de marine, vêtu d'un imperméable clair qui lui collait aux épaules et aux fesses, est passé près de moi. Il pouvait avoir aussi 19 ans, mais il était brun et son visage moqueur et sensuel s'est tourné vers moi pendant une brève seconde. Le temps de me faire voir des yeux admirablement fendus, une bouche qu'il était cruel de ne pas pouvoir baiser, et deux joues rondes où deux ou trois grains de beauté faisaient ressortir la blancheur mate de la peau. Pas l'ombre d'un poil. Je l'ai vu s'éloigner, la rage dans l'âme.
Je voudrais évoquer également Jean-Luc Barret, le rapport particulier qu'il a avec Robert de Saint-Jean. sont à la fois dans un rapport de fascination l'un pour l'autre, de confiance, d'émulation, de travail, et en même temps de totale rivalité amoureuse presque, puisque tous les scénarios sont possibles entre les deux hommes.
Je dirais complémentarité amoureuse plus que rivalité, parce que effectivement il y a des moments où tel garçon est ramené ou amené dans l'appartement par Robert et inversement. Donc c'est en fait on découvre une vie de couple là aussi. Je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, extrêmement moderne. C'est-à-dire qu'il y a pas, finalement c'est très surprenant, c'est qu'il y a aucun préjugé et il y a aucune limite. La limite elle sort éventuellement dans l'œuvre, de temps en temps dans le remords, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais il y a une espèce d'invention d'une autre vie de couple. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'aujourd'hui on parlait tout à l'heure de la pédophilie, la nouvelle morale par rapport à cela, qui salutaire par certains côtés et abusive par d'autres, puisque malgré tout il y a une réalité. Bon, on peut la condamner autant qu'on veut, mais enfin elle existe, et une réalité amoureuse. Mais dans ce cas-là, finalement, il transgresse tout. C'est-à-dire, c'est ce qui est fascinant dans le cas de Green, c'est qu'il bouscule toutes les limites, toutes les contraintes. C'est un livre très transgressif. Et le couple, ce couple-là est fondamentalement transgressif. Il y a un amour certain, il y a un désir mutuel, il y a une complicité. Ils chassent ensemble. Ils chassent ensemble d'une certaine manière. Et ils font
partagent
l'amour
là, les proies.
Ensemble. Ils partagent sans les limites habituelles d'un couple classique, y compris homosexuel d'ailleurs. Parce que souvent, contrairement à ce qu'on croit, les homosexuels, et peut-être encore plus aujourd'hui, ont tendance à reproduire les modèles classiques du couple avec la fidélité, la jalousie, etc. Là, on est dans un espèce de jeu très libre, très libertin. Au fond, c'est un livre très libertin.
Mais jeu qui a fini par aboutir, du moins le veut la légende, à la chasteté. Comment ça s'est passé? Quelle a été cette évolution? Est-ce que c'est vrai d'abord, ou est-ce que le journal va montrer que là aussi c'était un jeu de cartes pour tromper le monde?
Moi je suis très sceptique, mais Guillaume va très vite lever le voile sur tout ça. Au point de départ, nous avions affaire à un Julien Green qui, soi-disant, n'avait pas de relation amoureuse avec, enfin, très peu de gens. En tout cas, il était homosexuel, c'est clair. Ses livres admirables qui s'appellent Partir avant le jour. Il y avait cette relation très belle avec Marc, je crois. En tout cas, avec un garçon américain dont il était très amoureux, mais il n'y avait pas une ligne de sexualité. On a l'impression qu'ils n'avaient jamais couché ensemble. Bon. Donc, jusque-là, il y avait cette vérité instituée. La deuxième vérité instituée voudrait que dans la suite du journal, à 56 ans, il se soit arrêté de faire l'amour. Moi, j'attends, je suis un peu comme Saint Thomas, là. J'attends d'avoir des preuves.
Je pense que, en tout cas, sur cette période-là, il n'y a pas vraiment de solution de continuité. Julien Green, y compris au moment où il a cette activité sexuelle très présente, très omniprésente, il conserve ses préoccupations métaphysiques, religieuses, spirituelles. Et finalement, si évolution il y a vers peut-être une forme de distanciation de cette sexualité, mais il faudra voir à quel degré et selon quelle modalité, c'est très progressif, c'est très intériorisé. Et il n'y a pas véritablement de rupture, enfin, chronologique, je crois, très très nette. Sur le couple qu'il formait avec Robert de Saint-Jean, qui est effectivement un couple transgressif et hors norme et assez peu conventionnel, il faut préciser aussi que Robert de Saint-Jean est un lecteur du manuscrit du journal de Julien Green au fur et à mesure de l'écriture.
Au début, Green cache son journal dans une armoire et puis finalement
Robert tombe dessus et finalement il va le lire régulièrement et on peut penser que certaines choses qui sont écrites sur Robert de Saint-Jean par Julien Green dans ce journal sont écrites d'une certaine façon aussi pour donner des gages enfin et que il s'agit de prouver l'amour qui l'unit à Robert de Saint-Jean. Je pense que Robert de Saint-Jean reste une figure énigmatique malgré tout, malgré son omniprésence dans ce journal intégral. On ne voit pas véritablement ce qu'il pense de tout ça, comment il vit toutes ces années-là. On sait qu'il a tenu lui-même un journal, ça aurait été passionnant de pouvoir croiser les deux journaux parce que là on aurait vraiment... Oui, mais un journal vraiment intime et intégral comme celui de Julien Green, ça aurait été vraiment passionnant là, de pouvoir croiser les deux expériences. On aurait pu là, éclairer le couple complètement.
Alors la vie érotique, la vie sensuelle de Julien Green prend l'essentiel de la place dans ce premier tome, en tout cas de son journal intégral publié en bouquin, mais il y a d'autres éléments importants, notamment la vie onirique. Et on l'écoute d'ailleurs, Julien Green, un document INA.
Tout le monde rêve.
Pas comme vous.
Ben, c'est vrai. Alors moi, j'ai ma spécialité, si je puis dire, sont les cauchemars. Ma sœur me demande très souvent, est-ce que tu as rêvé cette nuit? Je dis, oui, naturellement, j'ai eu des cauchemars. J'ai des cauchemars toutes les nuits. Il est rare que je traverse une nuit sans cauchemar. Mais bon, je finis par trouver ça intéressant. Il y en a que je me rappelle quelquefois, ce que j'appelle la frange de mes rêves, c'est-à-dire ce qui précède immédiatement le réveil, n'est-ce pas? Alors il m'arrive de noter les choses et c'est curieux. Ce sont des rêves de poursuite. Là encore, la psychanalyse a beau jeu. Elle dit, mais naturellement que c'est la poursuite. Et ça veut dire ceci, cela, et tout ça. Mais je rêve beaucoup. Alors, dans mes livres, il y a des rêves, certainement. J'ai donné une place aux rêves. Mais pourquoi pas? Ça fait partie de l'expérience humaine.
Voilà un document INA, donc effectivement, il n'y a pas que la vie, l'éveil sensuel, Jean-Luc Barré, il y a également la vie onirique, les fantômes, les spectres, il y a des moments extraordinaires, là quand il se rend dans le vieux sud profond, le Old Dixie, à la recherche de ses racines familiales, le décor des propriétés un peu ruinées, de la nature, les spectres de sa famille qui hantent comme ça, des espèces de grands... Le côté autant en emporte le vent, version gothique presque.
Oui, d'autant que on sait que Julien Green avait dans les années 30 le projet d'écrire un grand roman, un grand cycle romanesque sur le sud des États-Unis, et quand il apprend, il l'a commencé, il a écrit quelques pages, et quand il apprend que Margaret Mitchell publie Autant en emporte le vent, il renonce, il dit bon, c'est plus la peine, ça y est, le livre est fait, et il ne le reprendra qu'à la fin de sa vie, et ça donnera le dernier grand cycle romanesque des Étoiles du Sud. Mais effectivement, l'onirisme, les rêves sont très très présents dans ce journal, puisque c'est toute une conscience avec tous ces aspects qui est livré. Julien Green nous offre sa vie dans ce journal, et y compris sa vie de rêveur, sa vie d'endormi et donc de
rêve. Expériences intérieures comme le bonheur, la joie, l'angoisse. C'est tout un côté existentiel qui rejoint le spirituel.
Absolument. Et puis des états aussi de conscience comme l'angoisse qui sont très liés à l'obsession de la maladie. Ça, c'est très lié à sa sexualité à l'époque. Il est vraiment obsédé par le moindre symptôme qui pourrait lui faire penser qu'il a attrapé une maladie. Et les consultations chez le docteur
sont fréquentes, les
descriptions
et détaillées.
Détaillées des manifestations physiologiques de toutes ces maladies sont tout à fait passionnantes.
Et qui pesait aussi beaucoup à cette époque, puisqu'il écrit là aussi, cette inquiétude qui s'appelle de temps en temps pour renaître aussitôt, elle muse, elle me vieillit. En parlant de la crainte de la syphilis. C'est fort quand même comme terme.
Oui, mais c'était à l'époque effectivement une grande crainte, enfin omniprésente pour toute personne en âge d'avoir une vie sexuelle. Et puis il y a autre chose aussi dans ce journal, mais peut-être qu'on en parlera plus tard, ce sont tous les récits de voyage qui sont déjà présents, qui étaient présents dans le journal publié, mais qui sont là beaucoup plus développés, avec cette sensibilité, cette attention aux paysages, aux villes traversées, aux œuvres d'art vues dans les musées.
Donc, oui, la contemplation esthétique est très grande. Oui. Pour conclure,
je pense que l'autre révélation qui va survenir, je pense, de ce journal, elle est déjà un peu dans ce premier volume, c'est le regard qu'il porte sur ses contemporains, et c'est le regard qu'il porte sur le milieu littéraire. Et je pense que là aussi, Green s'est beaucoup freiné. On l'entendait, il a une voix très douce, presque un peu précieuse. En fait, c'est un homme assez cruel dans les jugements qu'il porte sur les uns et sur les autres, et je pense que notamment sur l'Académie française, qu'il a fini par détester, sur tout ce milieu littéraire qui n'était pas totalement le sien, mais qu'il fréquentait malgré tout. Je pense que je m'attends à beaucoup de... On peut s'attendre à beaucoup de très bonnes surprises sur la manière dont il va dépeindre aussi son époque. Et c'est déjà le cas dans ce... Il est assez implacable dans les jugements qu'il porte sur les uns
mais
et sur les autres.
Il
s'était restreint. Et l'intérêt de ce journal, je ne voudrais pas qu'on le limite uniquement, même si c'est déjà considérable aux révélations d'ordre sexuel, ça sera aussi un journal sur l'époque, sur la vie littéraire de son époque, peut-être même sur la vie politique, bien qu'il s'y intéresse à distance.
Et puis alors, ami du mauvais genre et du cinéma fantastique, il y a des choses extraordinaires. Parce que Green va à l'opéra, on en a parlé, il va dans les expositions, bien évidemment, de peinture, il fréquente les ateliers, il y a de très étonnantes visites chez son ami Dali, où il achète des toiles à Dali, qui expose ensuite dans son appartement. Donc il y a Bérard également, Tchelichev, enfin il y a tous les peintres de l'entre-deux-guerres sont là. Et puis alors, le cinéma, c'est absolument fabuleux, puisqu'il va voir Nosferatu, et là on a véritablement une sorte de d'analyse à la fois cinéphilique et érotique de Nosferatu. Il y a le tabou évidemment de Murnau, et puis il y a Frix de Todd Browning, page 506, film assez terrifiant. Il est joué par les phénomènes de Barnum. Certains personnages ressemblent à des enfants qu'on verrait dans des miroirs déformants. Magnifique formule. Un tronc humain roule sur le sol comme un gros ver. Au bout de ce tronc, une tête de 50 ans qui parle et fume. Absolument génial. Tout ce cinéma du mauvais genre des années 20-30 est présenté par Green avec une acuité et un œil tout à fait beaucoup plus que curieux, presque complice. Combien de tomes apparaître,
Baron? Écoutez, je pense qu'il y aura trois volumes encore apparaître. Enfin, les trois volumes, voilà. Ça sera en tout cas, ce qu'il faut bien souligner, c'est que cette édition sera l'édition définitive du journal de Green. Évidemment, je suis très heureux qu'elle soit dans le bouquin.
Nous aussi, on termine cette première émission de Mauvais Genre de l'année 2020 par Christophe Beer.
Un visage d'ange, parfois canaille, chevelure blonde à franges, bras musclés, torse glabre de statue antique et jambes aux poils frisottants, corps élancé à l'affolante nudité ou revêtu de cuir. Dans ses films, dans ses autoportraits photographiques des années 1970, Peter Berlin fut l'incarnation vivante des garçons fantasmés par Tom of Finland. Il naît Armin Baron von Heunigen Hüne à Łódź, Pologne, en 1942, dans une famille aristocrate que la guerre a ruinée. Son père assassiné et le patrimoine confisqué par les Russes, Armin part vivre avec sa mère à Berlin-Ouest, dans la maison des grands-parents. À 13 ans, avec la machine à coudre de sa grand-mère, il se confectionne des pantalons étroits qui le font chavirer. À 19 ans, avouant sa première expérience homosexuelle, il crée un séisme familial. Un docteur envisage les électrochocs, mais plus rien ne freinera l'indépendance d'Armin et son ascension au plaisir débridé. Après des périples européens, il débarque avec son amant aux États-Unis. 1970, les rues de San Francisco. Armin soigne son apparence, coupe ses vêtements avec l'habileté d'un maître tailleur obsédé. Ses jeans, ses t-shirts, ses shorts se collent à lui comme une seconde peau, outrageux accessoire qui exacerbe ses courbes et son sexe dans des proportions immodérées. Sous le denim moulant, où la verge effrontément libérée, gonflée d'orgueil narcissique, il se projette en idole sexuelle, levant en silence ses proies affamées. Il leur offre peu de contact physique, mais une expérience visuelle, un éblouissement inaccessible. « Être désiré, dit-il, être confronté au désir des hommes était devenu mon activité principale. » Il capte alors l'image qu'il construit dans une profusion d'autoportraits, se dédoublant par la double exposition de son Hasselblad, jouant de tous les clichés gays, revendiquant son statut de pin-up mâle. Pour ses films porno, Night in Black Letter, puis That Boy, il adopte son nom de scène, Peter Berlin, star underground, inspirant Warhol et Mapplethorpe. Publié en Italie par Damiani, Peter Berlin, icône artiste photosexuel, reproduit de nombreux clichés ainsi que des travaux plus rares, collages et photos repeintes, autant d'écrins figeant la pièce maîtresse de son œuvre, lui-même, performeur débordant des cadres pour se tenir immobile, exagérant la pose contre un arbre du parc de Land's End ou prédateur à la démarche féline, dévorant le regard brûlant des hommes.
Merci Christophe Beer, et puis bonne année à vous. On vous retrouvera bientôt dans Mauvais Genre. Prochaine parution bouquin en ce début 2020.
On va très sage, on va publier un livre sur les bénédictins, figurez-vous.
Bah voilà, enfin, vous rachetez.
Voilà,
collection est rachetée.
J'ai aussi besoin de me racheter. Et puis Henry James, les voyages de James.
Et Schopenhauer.
Et Schopenhauer, bien sûr. Et puis Napoléon, la correspondance.
Merci à vous, Jean-Luc Barret. Merci Guillaume Faux d'avoir été ce soir les invités de Mauvais Genre en ouverture de la saison 2020. Toute l'équipe de l'émission, Laurent Polleret, Valérie Lavalard, Claire Poissignon, Claire Martin Dugard, Céline Duchesnay, Hubert Prolongeau, Christophe Beer et François Angelier vous remercie de nous avoir écoutés. De nouveau, nos meilleurs mauvais vœux pour 2020. Et on se retrouve samedi prochain, bien évidemment. Et d'ici là, bonne nuit à tous.